Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont jeunes militaires révolutionnaires. L'un a marqué l'histoire, l'autre est en train de l'écrire. Mais qu'en pensent les Burkinabés? Les Africains, que reste-t-il de cet héritage aujourd'hui et surtout quel éclairage peut-on porter sur cette dynamique à l'échelle du continent? Voici venue l'heure des voix fortes, des récits engagés et des analyses éclairées. Bienvenue dans Héros Africains, une émission signée Radio Intégration, présentée par Marie-Noël Etungu et réalisée avec soin par Josué Nabral à la technique. Ce soir, pour décrypter ces deux figures marquantes entre espoir, engagement et menace, nous avons l'honneur de recevoir un historien engagé, un pédagogue respecté, un esprit critique reconnu. Monsieur Patrice Nama est un enseignant plègue d'histoire et de géographie hors échelle, chercheur spécialiste des dynamiques politiques contemporaines en Afrique. Il s'intéresse particulièrement aux figures de rupture, aux mouvements sociaux et aux formes modernes de résistance. Avec lui, nous allons retracer les parcours croisés de Thomas Sankara, capitaine visionnaire de la révolution burkinabé des années 1980, et Ibrahim Traoré, jeune chef d'État qui fascine aujourd'hui toute une génération. Deux capitaines, deux contextes, mais une même vision de souveraineté, de justice sociale et d'émancipation peut-être. À travers quatre rubriques, nous vous invitons à découvrir, interroger et transmettre cet héritage. Portrait d'un visionnaire, des textes choisis pour replonger dans la pensée de ses leaders. Parole de témoins, allons sur les traces vivantes de leur héritage au Burkina Faso. Décryptage, un expert, Monsieur Jean-Claude Djereke nous déclare sur la portée actuelle de leur œuvres et les responsabilités qu'elle impose. La communauté parle, que disent les voix du peuple? Comment les jeunes burkinabés s'approprient-ils cette mémoire? Restez avec nous pour 52 minutes ou plus de réflexion, d'écoute et d'engagement.
Radio Intégration.
Radio Intégration.
La voix des communautés.
Portrait d'un visionnaire.
L'art de voir l'invisible. Thomas Sankara, date de naissance 21 décembre 1949 à Yako, Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Prise de pouvoir le 4 août 1983 à l'âge de 33 ans, à la suite d'un coup d'état soutenu par des jeunes officiers progressistes. Le pays était appelé Haute-Volta, il était en proie à l'instabilité, à la corruption et à une dépendance économique aiguë vis-à-vis de l'Occident. Sankara arrive avec un discours révolutionnaire axé sur l'autosuffisance, la justice sociale, la lutte contre l'impérialisme et l'émancipation populaire. Ibrahim Traoré, date de naissance le 14 mars 1988 à Bondoki, province de la boucle du Moun au Burkina Faso. Le Burkina Faso traverse une grave crise sécuritaire liée à la progression des troupes djihadistes. Le régime précédent est jugé inefficace par une partie de l'armée et de la population. Traoré, plus jeune chef d'État au monde, au moment de sa prise de pouvoir, justifie son action par la nécessité de sauver la nation et affirme une volonté de rupture avec les influences étrangères, évoquant souvent l'héritage de Sankara. Sankara et Traoré sont plus que deux militaires au pouvoir. Ils sont les visages d'un même rêve africain, celui d'une jeunesse qui ose, d'un peuple qui se redresse, d'un continent qui aspire à sa renaissance. Entre la mémoire du passé et l'espérance du présent, leur vision résonne comme un appel, celui d'une Afrique libre, digne et debout.
Président Vladimir Poutine, camarade président, chef d'État africain, camarade chef de délégation, bonjour. C'est un honneur pour moi ce matin donc de prendre la parole ici et de vous passer donc le salut fraternel du peuple du pays des hommes intègres. C'est aussi le lieu pour moi, avant tout propos, de rendre grâce à Dieu, Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de nous réunir ici ce matin en bonne santé pour parler de l'avenir et du bien-être donc de nos peuples. Je m'en vais m'excuser auprès des anciens que je pourrais vexer dans mes propos à venir. Africanité oblige, les droits d'aînés, je me dois de m'excuser. Camarades, j'ai quelques questions donc de ma génération, mille et une questions qu'on se pose. Mais nous n'avons pas de réponse. Et il se trouve qu'ici, nous pouvons laver donc notre linge sale parce qu'on se sent en famille. On se sent en famille en ce sens que la Russie est une famille aussi pour l'Afrique. C'est une famille parce que nous avons la même histoire. La Russie a consenti d'énormes sacrifices pour libérer le monde du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Les peuples africains, nos grands-pères, ont été déportés de force aussi pour aider l'Europe à se débarrasser du nazisme. Nous partageons la même histoire en ce sens que nous sommes les peuples oubliés du monde, qu'ils soient dans les livres d'histoire, dans les documentaires ou films. On tend donc à balayer le rôle prépondérant qu'a joué la Russie et de l'Afrique dans cette lutte contre le nazisme. Nous sommes ensemble parce que actuellement nous sommes là pour parler de l'avenir de nos peuples, de ce qui va advenir demain, de ce monde libre auquel nous aspirons, de ce monde sans ingérence dans nos affaires internes. Nous avons les mêmes perspectives et je souhaite que ce sommet soit l'occasion donc de pouvoir tisser de très bonnes relations en vue d'un meilleur avenir de nos peuples. Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique, avec tant de richesses sur notre sol, avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il qu'un chef d'État traverse donc le monde à mendier? Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente du néocolonialisme, de l'impérialisme. L'esclavage qu'on tend encore à nous imposer. Le peuple burkinabé a décidé de lutter contre l'idée terroriste, en mesure de relancer son développement. Dans cette lutte, des vaillants peuples, des vaillantes populations se sont engagées à prendre les armes face au terrorisme, ceux que nous avons affectueusement appelés les VDP, des volontaires. Nous sommes surpris de voir les impérialistes traiter ces VDP de milices et de tout type. C'est décevant, parce qu'en Europe, lorsque des peuples prennent les armes pour défendre leur patrie, on les traite de patriotes. Nos grands-pères ont été déportés pour sauver l'Europe. Ce n'était pas avec leur consentement, contre leur gré.
Ceux qui nous ont prêté de l'argent, ce sont ceux-là qui nous ont colonisés. Ce sont les mêmes qui géraient nos États et nos économies. Ce sont les colonisateurs qui endettaient l'Afrique auprès des bailleurs de fonds, leurs frères et cousins. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. La dette, c'est encore le néocolonialisme où les colonisateurs se sont transformés en assistants techniques. En fait, Nous devrions dire qu'ils se sont transformés en assassins techniques. Et ce sont eux qui nous ont proposé des sources de financement, des bailleurs de fonds internes que l'on emploie chaque jour. Qui a sauvé l'Europe? C'est l'Afrique. On en parle très peu. On en parle si peu que nous ne pouvons pas, nous, être complices de ce silence ingrat. Si les autres ne peuvent pas chanter nos louanges, nous avons au moins le devoir de dire que nos pères furent courageux et que nos anciens combattants ont sauvé l'Europe et finalement ont permis au monde de se débarrasser du nazisme. La dette, c'est aussi la conséquence des affrontements. Et lorsque l'on nous parle aujourd'hui de crise économique, on oublie de nous dire que la crise n'est pas venue de façon subite. La crise existe du tout temps. Et elle ira en s'aggravant chaque fois que les masses populaires seront de plus en plus conscientes de leurs droits face aux exploiteurs. Il y a crise aujourd'hui parce que les masses refusent que les richesses soient concentrées entre les mains de quelques individus. Il y a crise parce que quelques individus déposent dans des banques à l'étranger des sommes colossales qui suffiraient à développer l'Afrique. Il y a crise parce que face à ces richesses individuelles que l'on peut nommer, les masses populaires refusent de vivre dans les ghettos, dans les bas quartiers. Il y a crise parce que les peuples partout refusent d'être dans Soweto face à Johannesburg. Il y a donc lutte et l'exacerbation de cette lutte amène les tenants du pouvoir financier à s'inquiéter. On nous demande aujourd'hui d'être complices de la recherche d'un équilibre. Équilibre en faveur des tenants du pouvoir financier, équilibre au détriment de nos masses populaires. Non, nous ne pouvons pas être complices. Non, nous ne pouvons pas accompagner ceux qui sucent le sang de nos peuples et qui vivent la sueur de nos peuples. Nous ne pouvons pas les accompagner dans leur démarche assassine. Monsieur le Président, nous entendons parler de clubs. Club de Rome, club de Paris, club de partout. Nous entendons parler du groupe des 5, du groupe des 7, du groupe des 10, peut-être du groupe des 100, et que sais-je encore.
Parole de témoin.
La vérité a une voix.
Et je voudrais commencer par parler de leurs différences, ce qui les distingue. Et je serai plus long à propos de leurs similitudes, de ce qu'ils ont en commun. Et puis, je dirais les dangers qui guettent Ibrahim Traoré, ceux dont il devrait se méfier ou se garder, et si on peut le considérer comme la réincarnation de Thomas Sankara. Commençons par leurs différences. Thomas Sankara était catholique, alors que Ibrahim Traoré est musulman. Deuxièmement, si je ne me trompe pas, Ibrahim Traoré a fait toute sa formation au Burkina Faso, alors que Thomas Sankara a fait une partie de sa formation à l'étranger. Par exemple, à la fin des années 60, je crois qu'il a étudié à l'EMIA, École Militaire Interarmée de Yaoundé, en même temps que Blaise Compaoré, en même temps que Guérandi Mbara, qui après, n'est-ce pas, s'est exilé au Burkina Faso. Après Yaoundé, les deux, Compaoré et Sankara, sont allés à Madagascar, à l'école militaire dans Sirabé. Et je crois que c'est là, d'ailleurs, en 72, qu'ils ont vécu en direct le renversement du président Philibert Tsiranana par Didier Assiraka en 72.
Sur les traces de l'héritage.
Bâtissons demain avec l'héritage d'hier.
Dans ma famille, quand on parle de Sankara, c'est avec beaucoup d'émotion. Mes parents me disaient toujours qu'il a redonné l'espoir aux gens simples, qu'il parlait comme un frère, pas comme un président. Aujourd'hui, avec le capitaine Traoré, je pense qu'une nouvelle génération se réveille. Il n'a pas peur de dire les choses, de dénoncer le système et tout ce qui va avec. Pour moi, c'est un signal très fort. Sankara disait que l'esclave qui ne se révolte pas ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, moi je vois dans Traoré un appel à cette révolte-là. Mais une révolte pour reconstruire, pas pour détruire. Les deux, pour moi, sont des modèles.
En tant qu'étudiant en histoire, je vois dans le parcours de Thomas Sankara une rupture radicale avec l'ordre post-colonial. Il a incarné une souveraineté réelle en changeant même le nom de notre pays pour qu'il reflète notre identité. Ibrahim Traoré, lui, arrive à un moment où l'État est profondément secoué par l'insécurité et la désillusion. Mais dans ses discours, dans ses prises de position, je retrouve le même souffle, celui d'un capitaine qui veut rendre au peuple sa dignité. Je ne dis pas qu'ils sont identiques, non. Les contextes sont très différents, mais ils partagent une même volonté, celle de faire passer les intérêts du peuple avant tout. Et ça, pour nous jeunes, c'est une source de fierté et de devoir.
Décryptage.
Comprendre le passé pour éclaircir l'avenir. Ce soir, pour décrypter deux figures marquantes du Burkina Faso et de la jeunesse africaine en mouvement, nous avons l'honneur de recevoir un historien engagé, un pédagogue respecté, un esprit critique reconnu, Monsieur Patrice Nama, enseignant plègue d'histoire-géographie, spécialiste des dynamiques politiques contemporaines en Afrique. Avec lui, nous allons retracer les parcours croisés de Thomas Sankara et Ibrahim Traoré, chef d'État, qui fascine aujourd'hui toute une génération. Alors, Monsieur Nama, merci d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie.
Sans tarder, je vais tout de suite passer à la première question. Peux-tu nous dire ce qui relie, d'après toi, Thomas Sankara à Ibrahim Traoré?
Eh bien, avant de répondre à cette question, je voudrais, dans un premier temps d'entrée de jeu, saluer vos nombreux auditeurs. Les auditeurs qui vont suivre certainement ce que je peux considérer comme un banquet intellectuel qui va tourner autour de deux personnages marquants de l'histoire du continent africain, l'histoire en mouvement, comme vous l'avez si bien dit. Il s'agit de deux héros burkinabés, Thomas Sankara et Ibrahim Traoré. À votre question, qu'est-ce qui relie les deux personnages? Il est difficile, voire pas très aisé, de comparer deux hommes politiques africains au-delà de leur statut de militaire. Ici, nous ne parlerons pas de leur carrière militaire, mais de leurs œuvres sur le plan politique. Alors, mon analyse va s'appuyer sur au moins deux faits, une comparaison, et nous allons voir si à la fin de la comparaison, il y a quelque chose qui va relier les deux personnages. Thomas Sankara, militaire de formation, accède au pouvoir étant jeune à la suite d'un coup d'État. Et durant son magistère, bref, pour le rappeler, Thomas Sankara accède au pouvoir à l'âge de 38 ans. Nous sommes le 4 août 1983. Ibrahim Traoré accède lui au pouvoir à 37 ans, toujours par coup d'État. Nous sommes le 30 septembre 2022. À partir de là, nous pouvons avoir les premiers indices reliant les deux personnages. Ils accèdent au pouvoir étant jeunes et utilisent la même méthode pour accéder au pouvoir, à savoir le coup d'État. Maintenant, la deuxième chose dans ce que moi je vais appeler comparaison, c'est que Thomas Sankara arrive au pouvoir et instaure une politique révolutionnaire connue sous le nom de sankarisme. Et il a si bien défini et très bien défini son idéologie politique. Et cette idéologie politique repose sur quoi ? Sur le panafricanisme et l'anti-impérialisme qui cherche à revendiquer l'identité africaine de sa nation. Bref, il s'oppose au néocolonialisme. Nous pouvons dire à ce niveau que Thomas Sankara ressuscite
en Afrique, une idéologie lancée dans les années 50 par les Afro-Américains, à l'exemple de Kwame Nkrumah, une figure connue en Afrique, de Sékou Touré, et on peut citer William Dubois, un noir américain. Eh bien, j'ose donc croire qu'à partir de cette base, nous allons bien comprendre les trajectoires politiques de Sankara et d'Ibrahim Traoré. Maintenant, pour ce qui est d'Ibrahim Traoré, il accède au pouvoir, comme je viens de le dire, par coup d'État. Et jusqu'aujourd'hui, nous avons essayé de pousser nos recherches un peu plus loin. Idéologiquement, Ibrahim Traoré n'a pas encore exprimé sa perception idéologique et même politique. Mais nous pouvons rapprocher Ibrahim Traoré de la vision de Sankara par rapport aux actes qu'il pose. Par rapport aux actes qu'il pose. Ces actes sont une façon de décrier le néocolonialisme occidental. Une façon, à travers par exemple son adhésion à l'AES, un début de panafricanisme. Bien évidemment, nous reviendrons sur la notion de panafricanisme si vous le voulez bien. Je pense donc, pour cette première question, s'il nous était demandé de relier les deux personnages, nous dirions simplement que sur le plan idéologique, l'idéologie politique, Sankara comme Ibrahim Traoré sont pour l'unité, l'émergence de l'Afrique et la lutte contre le néocolonialisme.
Ok. Et est-ce que vous avez encore quelque chose à ajouter ou bien vous avez tout dit?
Tout n'est pas dit, mais nous aurons le temps de revenir sur certaines choses.
Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de Sankara 40 ans presque après sa mort? Pourquoi le même personnage revient?
Bien. Le personnage Sankara, vous le savez très bien, est entré dans l'histoire africaine de manière inattendue. Dans un premier temps, personne ne vendait cher sa peau. Mais à travers ses œuvres, Sankara a marqué les esprits en Afrique. Sankara a inquiété les puissances néo-occidentales. C'est peut-être pour cela que sa fin fut tragique. Maintenant, dans l'histoire du continent africain, le continent africain a ceci de particulier. J'aime bien le dire, le berceau de l'humanité. Mais ce berceau de l'humanité est aujourd'hui à la traîne. La bonne question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce que Sankara a fait pour redonner espoir à une jeunesse africaine en perte de repères? Qu'est-ce que Sankara a posé comme acte pour l'émergence du continent africain? Eh bien, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, les idées politiques de Sankara se résument en deux points, panafricaniste et anti-impérialiste, et qui cherchait à revendiquer l'identité africaine de sa nation. Et pour cela, il s'opposait au néocolonialisme. Il était d'idéologie communiste, puisqu'il a lu beaucoup d'œuvres des auteurs tels que Karl Marx, Lénine, soviétique. Maintenant, par rapport au panafricanisme, je vous ai dit que le panafricanisme, avant même que l'Afrique n'accède à l'indépendance, que les pays africains n'accèdent à l'indépendance, il y a eu un mouvement culturel afro-américain qui œuvrait, qui militait pour l'unité du continent africain. Malheureusement, cette idée n'a pas prospéré par rapport aux nombreuses influences néocoloniales. J'en voudrais pour preuve la naissance de l'Organisation des Nations Unies en 1964, il y a eu un débat avant la création de l'OUA. Okay. Oui, il y a eu un débat entre les dirigeants africains. Ce débat a divisé l'Afrique en deux. Il y avait d'un côté des dirigeants africains qui étaient pour l'unité du continent, dont une suite logique de la politique panafricaniste ou de l'idéologie panafricaniste développée par les Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres. Il y avait un autre camp, on l'a appelé le camp des fédéralistes à une époque, qui était contre l'union du continent africain, mais proposait une unité progressive du continent africain. C'est à l'issue de ce débat que naît l'OUA, Organisation de l'Unité Africaine. Eh bien, lorsque l'OUA naît donc, Kwame Nkrumah étant mis en minorité, eh bien, vous comprenez que les idées panafricanistes devaient aussi être mises de côté. Maintenant, tout ceci alimenté par quoi? C'est vrai, je suis parfois contre cette approche qui voudrait donner le tort aux autres par rapport aux problèmes du continent africain. Parce que vous allez l'observer, l'Afrique aujourd'hui est en marge de l'évolution mondiale. Et qu'est-ce qu'on trouve comme raison habituellement? C'est le néocolonialisme. Cette nouvelle forme de colonialisme qui impose la domination économique à une ancienne colonie devenue indépendante. C'est vrai. Mais une sagesse de chez moi dit généralement que quand tu tombes, ne regarde pas là où tu vas tomber, regarde là où tu as glissé. C'est pourquoi le panafricanisme n'a pas prospéré en Afrique. Nous pouvons accuser les Africains. Nous devons aussi accuser les Occidentaux qui ont roulé pour leurs intérêts, qui ont tout fait pour protéger leurs intérêts.
Qui ont su si bien protéger leurs
intérêts. Voilà. Mmh. Et qui essayent tant bien que mal de les protéger jusqu'à aujourd'hui.
Tout à fait. Puisque l'enjeu, c'est tout l'enjeu de,
voilà,
de l'affaire.
Et effectivement.
Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le berceau de l'humanité est aujourd'hui à la traîne. Mmh. Oui, est-ce que ça ne pouvait pas être différent? Est-ce que ça pouvait être différent? Est-ce que vous croyez que ce berceau-là aurait pu, en fait, pouvoir occuper une position différente de celle qui est actuelle?
Je pourrais répondre par oui et par non. Oui, pourquoi? Je vais aborder le problème sous un angle culturel. Pour revenir à la grandeur de l'Afrique à travers des faits historiques, nous prenons l'Afrique berceau de l'humanité, c'est-à-dire le berceau des civilisations. Mmh. Les autres sont venus prendre chez nous. Je prends l'exemple de l'Égypte pharaonique. Pour construire les pyramides, nous avons eu besoin d'architectes, de mathématiciens, d'ingénieurs. À partir de la structuration d'une pyramide, on peut aisément affirmer que l'Afrique a eu des ingénieurs, des mathématiciens, et même des médecins. Lorsque nous entrons dans l'histoire de l'Afrique avec l'échec Antadiop et autres.
Tout à fait.
Voilà. Mais ça, c'est sur le plan intellectuel. Maintenant, sur le plan économique, nous pouvons citer l'exemple du premier riche du monde, qui était un Africain, Mansa Moussa, de l'Afrique de l'Ouest. Le premier noir à effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et partout où il passait, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de locomotive, il n'y avait même pas de voiture. Il se déplaçait avec sa caravane. Et partout où il s'arrêtait, il construisait une mosquée. Ça, c'est quelques éléments de grandeur du continent africain. Maintenant, qu'avons-nous fait de tous ces hauts faits d'armes pour que l'Afrique se retrouve à la traîne aujourd'hui? Ça, c'est une question que chaque Africain devrait se poser.
Est-ce que ce n'est pas plutôt parce que les autres ont été très habiles?
Les autres ne pouvaient pas être très habiles. Ils ne pouvaient pas être très habiles par rapport à toutes les sommités africaines que j'ai citées, par rapport à toutes ces réalisations. Il faut simplement dire qu'il y a eu deux Afriques. Une Afrique précoloniale. Et cette Afrique précoloniale a su valoriser le continent africain à sa manière. Et la deuxième Afrique, c'est celle que je qualifie d'Afrique néocoloniale, qui œuvre, qui manœuvre même pour les intérêts occidentaux au détriment des intérêts africains. Et c'est pour ça que j'ai dit tantôt que je vais aborder le problème sous un prisme ou sous un angle beaucoup plus culturel. Prenons un exemple simple aujourd'hui. Lorsque vous regardez un Africain, qu'est-ce qu'il a d'Africain? Qu'est-ce que votre enfant à la maison a d'Africain? Qu'est-ce qu'il sait de l'Afrique? Même dans la définition des curricula d'enseignement, vous allez voir qu'une part belle est réservée à l'histoire occidentale et non à l'histoire africaine. Ce n'est pas en sixième, par exemple, qu'on devrait parler de la grandeur du continent africain. C'est normalement face à des élèves que je peux considérer de mûrs. C'est ces élèves-là qui peuvent porter le flambeau de la grandeur passée du continent africain. Voilà à peu près ce que je pouvais dire à ce niveau.
Merci Patrice pour cette replongée dans le passé de l'Afrique, un passé qui tend à être oublié aujourd'hui. Vous nous avez si bien réveillé la mémoire avec l'histoire de Mansa Moussa, dont on n'en parle plus, et c'est dommage vraiment. Voilà qui pourrait inspirer cette nouvelle génération en perte de repères. Alors, j'aimerais passer à une prochaine question. Alors, elle consiste en ceci. Est-ce que Ibrahim Traoré marche vraiment dans les pas de Sankara?
Eh bien, ce serait trop hâtif de donner une réponse affirmative ou négative à cette question. Pourquoi? Simplement parce que Ibrahim Traoré est au pouvoir depuis 3 ans. Nous sommes en 2025 aujourd'hui. Oui. Et il arrive au pouvoir le 30 septembre 2022. En 3 ans, il va être difficile de juger quelqu'un. Et je vous ai dit tantôt que, au regard de ce que j'ai essayé de trouver sur Ibrahim Traoré, nous sommes arrivés à une conclusion simple. Il n'a pas encore une définition idéologique précise. Mais c'est les actes qu'il pose qui peuvent nous amener à croire que il est à l'image de son jeune frère ou de son frère, paix à son âme, Thomas Sankara. Pourquoi? Dernièrement, je regardais une émission de télévision. J'étais le nom de la chaîne. J'ai observé que ce dernier a opéré une révolution du mode vestimentaire dans les grandes écoles au Burkina Faso. C'est-à-dire que les étudiants des grandes écoles prestigieuses comme notre ENAM au Cameroun ne devraient plus s'habiller en veste, c'est-à-dire ne devraient plus s'habiller à l'occidental.
Oui.
C'est désormais la tenue traditionnelle du Burkina Faso. Cet exemple peut donc nous amener à dire que Ibrahim Traoré suit les pas de Thomas Sankara.
Ok, merci d'avoir répondu à cette question. Voilà une autre qui me vient. Une question appelle une autre. En appelle une autre. Alors, celle-ci vient, j'aimerais l'exprimer. Est-ce que l'engouement suscité par ces deux héros, s'il faut les appeler ainsi, parce qu'ils le sont tout de même, ne serait-ce que pour ces Africains que nous sommes, est-ce que donc l'engouement suscité par ces deux héros n'est pas simplement l'écho des larmes et de la tragédie que vit la génération actuelle de l'Afrique?
Bien, effectivement. Effectivement, ces deux personnages marquent, je devrais le dire, si leur mouvement pouvait faire effet, un tournant décisif dans l'histoire du continent africain. Mais hélas, les chantres du colonialisme considèrent ces effets comme des épiphénomènes qui seront appelés à disparaître avec les personnages. Vous voyez par exemple, Sankara est parti, et après lui, qu'est-ce qui s'est passé? Essayez d'évaluer le temps qui sépare la fin tragique de Thomas Sankara et l'émergence de nouvelles figures révolutionnaires en Afrique de l'Ouest. Ça fait plus de 40 ans. Vous conviendrez donc avec moi que, loin d'être un épiphénomène, les idées de Thomas Sankara devraient être récupérées par cette jeunesse africaine. Cette jeunesse africaine qui a soif de rupture. Cette jeunesse africaine qui commence à voir un peu plus clair sur les idées, sur les prétentions des Occidentaux vis-à-vis du continent le plus riche du monde. Je cite le continent africain.
Tout à fait, Patrice. Bon, moi, j'aimerais toujours continuer dans le même sens. Je me dis, est-ce que tu crois que le syndrome d'émancipation de l'Afrique, pour ainsi dire, qui a, en fait, le vent qui souffle actuellement, ce vent qui souffle actuellement en Afrique, le vent de l'AES, peut être éradiqué?
Éradiqué, j'éviterai de répondre de manière péremptoire à cette question. Éradiqué, je viens de vous dire tantôt que c'est des personnes, c'est des personnages qui portent un idéal. Il est donc question aujourd'hui que cet idéal soit vulgarisé dans les masses populaires africaines pour que le mouvement survive. Mais s'il n'y a aucune vulgarisation, si c'est seulement Radio Intégration qui promeut l'intégration africaine, qui soutient ce mouvement, vous conviendrez avec moi qu'il a très peu de chances de porter des fruits demain ou après demain. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? La génération d'intellectuels africains, la génération de décideurs africains actuels devrait s'approprier ce socle idéologique.
Tout à fait.
Qui seul pourra sauver le continent africain, à savoir le panafricanisme. Une lutte acharnée contre le néocolonialisme, bref, l'anti-impérialisme.
Alors, est-ce que vous croyez que le panafricanisme est une menace pour le néo, en fait,
pour les intérêts occidentaux? Oui et non. Non, pourquoi? Parce que le monde aujourd'hui est un village planétaire. Et tout devrait se partager dans le monde. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, il est ouvert. D'ailleurs, je voudrais citer un de mes professeurs d'université, Feu Kangé Wane, professeur Kangé Wane, qui disait que toute culture est ouverture. Le panafricanisme ne peut donc pas évoluer en marge du village monde. Mais le panafricanisme devrait s'imposer comme une façon de voir, comme une façon d'agir,
comme une façon de faire dans le système monde. D'où sa survie.
Et là, oui, dans quel sens?
Maintenant, oui. Oui, pourquoi? À une condition. Que les Africains s'approprient ces idées panafricanistes. Beaucoup plus sur le plan culturel. Je vais revenir sur la culture. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, l'Afrique est divisée en plusieurs régions. Et cette division régionale tient compte des anciennes puissances coloniales. Il n'est donc pas surprenant d'entendre parler de l'Afrique francophone, de l'Afrique anglophone, de l'Afrique lusophone, de l'Afrique blanche. Si nous partons du fait que le panafricanisme a pour but de revendiquer une identité africaine propre, dont je pourrais parler ici de l'unité du continent africain. Est-ce que dans ces divisions, l'objectif panafricaniste peut être atteint? Quand on sait par exemple que l'Afrique blanche ne se considère presque pas comme membre du continent africain, l'Afrique blanche est beaucoup plus penchée vers l'Occident.
Qu'est-ce que vous entendez par l'Afrique blanche?
L'Afrique blanche, c'est-à-dire le Maghreb. Le Maghreb.
Ok.
Oui, l'Afrique du Nord, les pays de l'Afrique du Nord, Maroc, Algérie, Tunisie et autres, ils se considèrent beaucoup plus européens qu'africains. Dans ces conditions donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a un obstacle premier à la réalisation de l'unité du continent africain, dont le vœu cher à Kwame Nkrumah, Sékou Touré et autres. Maintenant, autre chose, qui réellement doit porter les idées panafricanistes à ce jour? Lorsque nous observons une Afrique noire presque résolument penchée sur les visions occidentales du monde, regardez notre façon de vivre, notre façon de faire, nos langues maternelles qui disparaissent, nos valeurs culturelles qui ont presque disparu. Quelle identité africaine nous allons servir au village planétaire? Pour nous donc, panafricanisme, oui, c'est un mouvement initié il y a très longtemps qui est en train de ressusciter, mais il nous faudra beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts sur le plan éducatif, beaucoup d'efforts sur la réappropriation de nos valeurs culturelles, cette culture qui faisait l'unité du continent africain, l'unité du continent africain. En l'Égypte pharaonique, les Africains se reconnaissaient. En Kankan Moussa, les Africains se reconnaissaient. En Shaka Zulu, les Africains se reconnaissaient. Mais aujourd'hui, vous parlez de l'AS. L'AS, on a l'impression que ça ne concerne que l'AS. Les autres pays de l'Afrique ne sont pas interpellés, ne sont ni interpellés ni concernés par ce mouvement. Alors que une Afrique unie dans un mouvement d'ensemble ferait certainement trembler le monde. Et j'en veux pour preuve les données statistiques. La population africaine a dépassé le milliard d'habitants. Donc, une Afrique d'un milliard d'habitants, une Afrique riche en ressources naturelles, une Afrique riche en intelligence, une Afrique présentant une diversité culturelle extraordinaire. Si on unissait toutes ces valeurs-là avec le milliard d'habitants, est-ce que nous serions encore en train d'envier le Canada, la France et autres? Je ne pense pas.
Un dernier mot, Patrice, avant qu'on se sépare. Ah bon, j'aimerais quand même te poser encore cette question. Que dirais-tu à ceux qui rêvent encore d'un continent africain plus souverain, plus juste?
Merci pour cette question. Un avenir africain plus souverain, plus juste, se résume en une, deux ou trois choses. Si nous voulons y croire, Première chose, une réappropriation de nos valeurs culturelles. Et vous savez, les cultures africaines étaient essentiellement basées sur la solidarité. Le professeur Jean-Marc Ella, sociologue, parlait du communautarisme africain. Voilà une valeur noble qui devrait servir de base, de socle pour ceux qui rêvent encore d'un avenir africain plus souverain et plus juste. Deuxième chose, pour un avenir africain plus souverain et plus juste, il faudrait que les Africains soient inventifs, qu'ils croient en eux, qu'ils proposent aussi des modèles d'organisation sociopolitique aux autres continents, comme nous l'avons vu avec la démocratie grecque en son temps. Nous sommes aussi à mesure de proposer une façon de voir, une façon de faire, et non passer notre temps à recopier des modèles occidentaux qui détruisent même les sociétés africaines. Malheureusement, dans ce combat-là, dans cette bataille-là, les Occidentaux ont gagné. Est-ce que les Africains pourraient sortir de là? C'est une question que je me pose moi-même. Mais je vais simplement dire à ces Africains, je ne voudrais pas parler de rêve. J'aime pas trop le rêve. Parce que rêve veut dire irréalisable. Les rêves ne se réalisent presque pas. Moi, je voulais parler d'un idéal. Le panafricanisme devrait être un idéal. Pour que l'Afrique survive aujourd'hui, il faudrait qu'on se réapproprie les idées du panafricanisme.
Patrice, quand tu dis nous copions, j'aimerais que tu sois un peu plus concret. Qu'est-ce que nous copions?
Merci. Lorsque vous regardez le fonctionnement de la société camerounaise, par exemple, je vais faire simple. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ce n'est que ce qui est mauvais en Occident que les Africains s'approprient, que les Occidentaux nous imposent même parfois? Je prends le cas de l'homosexualité. L'homosexualité. Désormais, l'aide publique au développement, aide entre guillemets, est assortie par des conditions. Et parmi ces conditions, vous devez libéraliser l'homosexualité. Dépénaliser, c'est le mot qu'ils utilisent généralement, dépénaliser l'homosexualité. Maintenant, en dehors de cet exemple, je peux multiplier des exemples. Il est bien vrai, vous allez nous dire que le monde est devenu dangereux et autres. Regardez, lorsque vous sortez dans la rue, la première chose en construisant une maison, c'est la barrière. La barrière veut dire que tout le monde n'est pas la bienvenue chez nous. Alors que dans les sociétés traditionnelles africaines, les rencontres se passaient généralement en plein air. On était heureux de recevoir ses frères, ses sœurs. On mangeait ensemble le soir et ça renforçait donc notre solidarité.
En effet, l'hospitalité était une règle d'or.
Voilà.
Bon, dans le clan Béti, on veut dire l'aile linguistique, l'aile culturelle Béti, on parlait de Odzokelaman, il y avait un régime de bananes mûres accrochées pour l'étranger, le passant, oui.
Voilà. Mm-hmm. Et il y avait toujours une calebasse d'eau fraîche pour étancher la soif des passants. Vous voyez donc que nous avons perdu toutes ces valeurs. C'est l'individualisme imposé par la colonisation qui est devenu la règle de vie de la plupart des sociétés africaines.
Il est aussi vrai que la montée en puissance de l'insécurité aussi renforce cet individualisme, pour ainsi dire.
Nous n'avons pas dit le contraire. Mm-hmm. C'est vrai. Mais nous sommes devenus plus individualistes que ceux qui nous ont enseigné l'individualisme. Vous vous rendez compte?
Tout à fait.
Oui. Le Camerounais, par exemple, le jeune Camerounais est devenu plus occidental qu'africain. Que Camerounais, il ne se reconnaît même plus africain. Par sa manière d'être, par sa façon de faire.
Oui, d'ailleurs, il y en a peu qui parlent encore leur langue maternelle. Voilà. Mm-hmm.
C'est des exemples. C'est des exemples. Maintenant, entre Africains, si je vous dis par exemple qu'il est facile d'obtenir un visa pour la France étant au Cameroun, que d'obtenir un visa pour la République de Guinée équatoriale à côté, là où on peut aller à pied. Difficile d'avoir un visa. Avec visa même, vous êtes toujours menacé dans ces pays.
C'est vraiment drôle, ouais.
Bon, nous allons donc parler de quel panafricanisme, de quelle intégration africaine, avec autant de divisions, avec ces présidents qui roulent, qui fonctionnent au gré des intérêts occidentaux. Nous pouvons donc dire, comme propos de fin, que les Traoré gagneraient à insuffler cet élan à la jeunesse africaine en général et à la jeunesse de leur pays en particulier, pour qu'une nouvelle génération d'Africains puisse émerger, puisse voir le jour.
Deux capitaines, deux regards braqués vers un avenir où l'Afrique se tient debout, libre, souveraine. Sankara n'est plus, mais son verbe court encore. Traoré agit, porté par cette mémoire vivante. Entre espoir, engagement et menace, merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cet épisode de Héros africains. À la technique, Josué Nabral, à la présentation, moi-même et Tungu Marie-Noël. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même passion, pour d'autres voix, d'autres combats. Excellente nuit sur Radio Intégration.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Ils sont des héros, héros africains.
Ce sont des héros, héros africains.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.